D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Je suis à Versailles. C'est une phrase que tout le monde n'aurait pas pu dire sous la monarchie, qu'en tout cas aucun de mes ancêtres, n'étant pas noble, aurait pu dire. Du moins jusqu'à Louis XIV. Ce roi n'a pas inventé Versailles, mais il a inventé l'idée de Versailles, c'est-à-dire d'en faire ce palais chinois, cette cité interdite, destinée à éblouir tout un pays par son faste et ses rites. La différence est que les empereurs de Chine, dont Louis XIV a d'ailleurs reçu des envoyés, ont fait de leur palais de Pékin un lieu de faste, de rite et de mystère. Chez Louis XIV, et c'est sans doute son génie, pas d'intimidation par le mystère, mais intimidation par la clarté. Avec lui, tout se voyait, tout se regardait, tout était fait pour être vu, ou plutôt admiré. Et c'est en cela qu'il est archi-français, ou qu'il a inventé cette longue passion française pour la clarté comme idéologie. Louis XIV, on le sait, était un homme et une idole. S'il n'a pas inventé l'étiquette, elle date d'Henri III, il l'a portée à un point maximal. On le regardait se lever, on le regardait manger, on le regardait se coucher. Et pour qu'on puisse mieux l'admirer, il a ouvert son palais au public. À condition de louer une épée pour avoir l'air noble, et c'est là que la clarté rejoint l'hypocrisie en un mélange encore une fois bien français, on pouvait entrer à Versailles. « Je l'ai vu dans ses jardins, ce grand roi qui se promenait lui-même », a dit un jour un naïf. Un de mes ancêtres aurait donc pu l'apercevoir. Ce qu'il n'aurait absolument pas pu voir et que nous allons visiter aujourd'hui, ce sont ses appartements privés et ceux de ses successeurs. Quel est le secret professionnel des appartements privés des rois à Versailles? Mathieu Davignat, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, nous reçoit dans ses appartements privés précisément pour en parler. Mathieu Davignat, pour commencer, dites-moi brièvement ce que c'est que le centre de recherche du château.
Le centre de recherche est un centre de recherche sur les lieux expression de pouvoir, un centre qui est dédié à l'histoire des cours, mais également à tout ce qui est aspect espace du pouvoir. Donc c'est pour venir en appui de la conservation. Là où la conservation s'occupe des collections, nous sommes plutôt sur les hommes, la vie des hommes dans les lieux et dans ces espaces que sont non seulement le château de Versailles, mais aussi toutes les résidences royales européennes.
À quel endroit exact du château sommes-nous dans cette pièce précise ?
Nous sommes dans la chambre à coucher, la véritable chambre à coucher de Louis XV, puis de Louis XVI, une chambre qui a pris place sur des anciens appartements privés de Louis XIV et vraiment dans les espaces les plus privés du château. On est au débouché sur le cabinet du conseil et finalement ce château qui était accessible à l'ensemble des personnes qui étaient bien habillées, quiconque pouvait venir dans la chambre de parade de Louis XIV au plein centre du château. Et finalement, lorsqu'on arrive ici, où nous sommes dans les parties les plus privées à deux battants, et seules les personnes habilitées, invitées par le roi lui-même ou par l'un de ses domestiques ou l'un des membres de sa famille, pouvaient pénétrer dans ces espaces qui étaient un ancien appartement de collectionneur de Louis XIV.
À deux battants, ça veut dire quoi ?
On a des systèmes de deux battants, donc chaque porte du château a deux battants. Néanmoins, ceux-ci s'ouvraient uniquement pour les personnes de haut rang, en l'occurrence les princes, fils et petites filles de France ou membres de la famille royale. Pour les personnes ducs et pairs également, en revanche, pour les personnes de moindre qualité, de moindre importance, un seul battant était ouvert et nous avions les huissiers de la chambre, de l'antichambre, qui faisaient en sorte de refermer immédiatement sur les visiteurs ces doubles battants.
Donc cette petite pièce est...
Cette petite pièce, qui n'est pas si petite que ça, puisque tout est grand à Versailles et on donne l'impression d'être petit. Néanmoins, nous sommes dans une pièce d'une centaine de mètres carrés qui correspond aujourd'hui à la chambre de Louis XV, puis à celle de Louis XVI, véritable chambre à coucher. C'était l'ancien cabinet du billard de Louis XIV qui débutait l'appartement de collectionneur de Louis XIV. Et il faut imaginer, finalement, Louis XV venant se coucher et se lever ici tous les soirs en robe de chambre avant de se rendre dans la chambre officielle pour se lever en public. Donc on est vraiment dans l'intimité royale avec une alcôve qui a été gagnée sur une cour intérieure.
Mais c'est une intimité néanmoins, puisqu'il faut le décrire un peu, puisque nous sommes à la radio, c'est une intimité assez fastueuse parce que je vois là six tabourets avec des...
Il y a de superbes ployants, de superbes boiseries. On est dans un style 18e avec des boiseries dorées, des dessus de portes, des cheminées en marbre, évidemment des tentures sculptures somptueuses et avec des objets d'art magnifiques. Nous sommes dans un espace véritablement de majesté, même si c'est la chambre privée du roi. C'est ici qu'il dort, donc la chambre étant la pièce la plus importante d'un appartement royal dans la mesure où elle accueille le sommeil du souverain.
Donc ce qui se passait de manière pratique, c'est que le roi faisait son, est-ce qu'on appelait ça son grand coucher, son coucher officiel dans les pièces d'apparat, puis venait se coucher ici dans cette pièce.
Donc le roi se couche dans la grande chambre de parade qu'on appelle maintenant la chambre de Louis XIV, au centre du château, au premier étage, qui donnait sur le balcon, exposé plein est, et donc qui était relativement froide à l'époque de Louis XIV, puisqu'il n'y avait qu'une seule cheminée, 92 mètres carrés, 12 mètres sous plafond, et ici nous sommes exposés plein sud, et Louis XV en 1737 a décidé, lorsqu'il était revenu à Versailles à l'âge de 12 ans en 1722, il faut l'imaginer, ce petit roi adolescent couchant dans une immense chambre qui était celle de son arrière-grand-père, et finalement il se fait aménager cette petite pièce, petite relativement, mais qui est beaucoup mieux exposée, beaucoup plus basse de plafond et avec un confort bien plus important que la grande chambre de parade.
Mais dites-moi où est le lit, Mathieu Davignan.
Alors, le
je
lit,
ne le vois pas, je le vois lit, l'alcôve fermée par un rideau, je vois des fauteuils, mais où est le lit?
Le lit, il n'y a plus de meubles de la chambre. Il faut savoir qu'à la mort d'un roi, il y avait ce qu'on appelait le système de la dépouille, c'est-à-dire que le premier gentilhomme de la chambre qui était en service au moment de la mort du roi recevait tout le mobilier, que ce soit les meubles, les tentures, qui pouvaient dépecer, revendre, puisque ce sont des objets qui coûtaient extrêmement cher, et nous ne possédons pas de lit de Louis XV ou de Louis XVI, et nous sommes actuellement en train de reconstituer, selon des plans très élaborés, le lit tel qu'il pouvait l'être à la fin du XVIIIe siècle.
Est-ce que vous me conduisez dans la pièce suivante? Où nous sommes, Mathieu Davignan?
Nous sommes dans le cabinet de la pendule, en raison d'une superbe pendule qui est exposée dans cette pièce, avec une pendule qu'on appelle de passement. C'est l'ingénieur qui a inventé ce système. Il faut imaginer non seulement un très bel objet d'art, avec des bronzes...
De quelle hauteur? Parce que c'est très haut.
Elle fait à peu près 2 mètres de hauteur. Une pendule qui s'est toujours trouvée dans cette pièce, dès l'époque de Louis XV, à peu près vers 1752. Et il faut imaginer que non seulement elle donne l'heure, évidemment, ce qui était intéressant pour une pendule, mais elle dispose en son sommet du système solaire avec le mouvement des planètes tel qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. Donc,
c'est-à-dire fonctionnait, c'est un globe en verre.
Un globe en verre avec tout le système solaire, des axes en bronze et cuivre. Et on a également, chose extraordinaire, cela annonce également le jour de la semaine, la date du mois, le mois, l'année. Et ce qui fait que si cette pendule est bien entretenue, elle est capable de fonctionner jusqu'à 9999. Et elle indique également le mouvement de la Lune. Et on voit là la lune qui est pleine, donc on a une pleine lune qui a dû avoir lieu ou qui a eu lieu récemment. Et finalement, moi, lorsque je suis arrivé à Versailles, je trouvais déjà ça extraordinaire d'avoir une pendule qui donnait toutes ces informations. Et on m'a expliqué que le plus grand aspect technique était ce système de pendule qui, par un seul mouvement lent, entraîne l'ensemble des mécanismes, non seulement des secondes, des heures, des minutes, du mouvement des planètes, mais également jour, mois, année, etc.
Et qu'est-ce que c'était que la pièce exactement à l'époque des rois? En dehors de cette pendule, elle servait à quoi?
C'est un cabinet privé, donc dans lequel le roi pouvait recevoir.
Qui est blanc et doré.
Qui est blanc et doré, avec des superbes boiseries de Werbert et de Rousseau, qui sont les grands ébénistes de l'époque de Louis XV. Donc on a véritablement on a changé par rapport au décor de l'époque de Louis XIV. Il faut savoir qu'à l'époque de Louis XIV, nous avions des décors riches, avec du marbre et des grands décors assez massifs. Et au XVIIIe siècle, naissent ces boiseries peintes assez sobrement, puis beaucoup plus dorées par la suite. Donc on est dans une pièce qui est une sorte d'antichambre avant de pénétrer dans des pièces encore plus privées, puisque ce qu'il faut savoir dans ces appartements, c'est qu'au fur et à mesure qu'on pénètre dans l'appartement, on va de plus en plus dans des pièces intimes. On est dans des arrière-cabinets, dans des très arrière-cabinets, voire dans des très très arrière-cabinets qui se construisent à ce moment-là.
Nous allons y aller, Mathieu Davignan. Juste une dernière question sur cette pendule que nous regardons, là, qui est sur un pied de marbre. Qu'est-ce qu'il est advenu d'elle pendant la Révolution? Elle a toujours été là? Elle est revenue? Elle a été rachetée?
Cette pendule a toujours été dans les collections de Versailles. Elle a toujours été exposée dans cette pièce. Elle bouge très rarement. Elle est peut-être partie au Louvre, même certainement au Louvre, en 1792 ou 93, lors des ventes révolutionnaires. Pendant les ventes révolutionnaires, on a vendu généralement tous les objets d'art, à l'exception des peintures qui étaient considérées comme des chefs-d'œuvre ou des meubles considérés comme chefs-d'œuvre. Donc elle est partie au Louvre comme musée et finalement elle est revenue à Versailles. Et elle avait été mise en place au XVIIIe siècle de façon à ce qu'on puisse tourner autour et voir le mécanisme, ce qu'on peut faire encore aujourd'hui par un système de glace qui permet de voir le mécanisme. Et elle a bougé très peu depuis, uniquement pendant les mises à l'abri, pendant la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, sachant que c'est un mécanisme très pointu et très compliqué et qu'il faut toujours la déplacer à niveau pour ne pas dérégler le mécanisme.
Alors en marchant, nous sommes arrivés dans une autre pièce. Où sommes-nous maintenant ?
Nous sommes dans le cabinet d'angle de travail de Louis XV, qui est un cabinet qui a été entièrement remeublé tel que Louis XV avait pu le connaître. Le principe de conservation à Versailles aujourd'hui, de remeublement, est de présenter le château tel qu'il pouvait l'être aux journées d'octobre 1789. Néanmoins, parfois, on a d'heureuses surprises où on retrouve non seulement l'ensemble des boiseries, mais également l'ensemble du mobilier, ce qui est le cas de ce cabinet.
Car les boiseries avaient été aussi arrachées. Vous nous parliez tout à l'heure des meubles, mais les boiseries avaient disparu.
Les boiseries avaient disparu parce que ça a été revendu. Ce sont des choses riches qu'on retrouve dans les collections de musées, qu'on retrouve dans certains hôtels particuliers. Et ici, on a la chance non seulement d'avoir ces boiseries d'origine de l'époque de Louis XV, ces encoignures qu'on a de chaque côté du grand cabinet, et finalement également ce superbe bureau qui est la pièce maîtresse.
Est-ce que vous voulez me le décrire, car il est effectivement majestueux et très très haut.
Oui, on a un superbe bureau en marqueterie avec des bronzes qui est l'œuvre de l'ébéniste Eubon qui l'a commencé et qui a été terminé par le célèbre, non moins célèbre, Risner qui a fait ce travail pour le compte de Louis XV, sachant que Louis XV avait un cahier des charges très précis. Il s'agissait de véritablement pouvoir laisser tous les documents sur son bureau, que Louis XV s'absente quelque temps et puisse retravailler en récupérant tous ses documents.
Alors ce bureau était le bureau personnel de Louis XV, nous sommes passés devant, c'est un bureau à coulisses avec des bougies, enfin un très grand bureau, c'était vraiment son bureau personnel.
C'est le bureau personnel de Louis XV, une commande express avec un cahier des charges très précis, c'est la pièce maîtresse en mobilier du château de Versailles. Mais au-delà de ce bureau à coulisses, on a différents tiroirs de chaque côté qui ouvrent et qui ont des secrets, ce qu'on appelait des secrets, c'est-à-dire que ce meuble renferme plusieurs cachettes discrètes et on a véritablement plus d'une dizaine ou d'une quinzaine de mécanismes qui sont dans ce bureau avec un seul système de clés.
Nous allons maintenant entendre un extrait d'un des musiciens favoris de Louis XIV, Lully, cet Italien qui l'a fait devenir français et comme souvent dans ce cas plus français que les Français et prenant le style français plus qu'aucun Français ne le demandait. Et voici donc par le surintendant de la musique du roi un extrait d'un genre très original qu'il a créé avec Molière, la comédie-ballet, dans un air du bourgeois gentilhomme, la cérémonie des Turcs.
Thank you.
Alors, nous sommes maintenant, nous avons traversé, nous avons quitté le bureau de Louis XV et nous sommes entrés dans une pièce, pour le coup, vous allez me dire qu'elle est grande, mais elle est plus petite que les autres. Quelle est cette pièce, elle aussi, blanche et dorée, où je vois un grand thermomètre sur un mur et des montres dans une vitrine.
Nous sommes dans le cabinet des dépêches, c'est-à-dire une pièce également très privée de cet appartement de Louis XV, Louis XVI. Il faut savoir qu'il y avait une diplomatie officielle à la cour, mais il y avait aussi une diplomatie parallèle. Et c'est dans ce cabinet que Louis XV envoyait des dépêches au fameux chevalier Déon, par exemple, qui se déguisait espion, qui se déguisait en femme et qui sillonnait toute l'Europe. Donc c'est vraiment le shadow cabinet, on pourrait dire, de Versailles. Donc cabinet des dépêches, ce sont les fameuses lettres qu'on envoyait à l'époque dans les cours étrangères. On a également un décor qui est assez somptueux, même si on est dans une pièce beaucoup plus petite. On commence à rentrer de plus en plus dans les arrière-cabinets, les très arrière-cabinets, et on va voir qu'à l'extrémité de l'appartement, les pièces seront encore plus petites. On a également une armoire qui renferme des montres, qui sont une partie de la collection de montres de Louis XVI. Louis XVI était, comme Louis XV, très attiré par les sciences, et on a ici quelques exemplaires de ces montres Richemont, qui sont des montres à gousset.
Très ouvragées.
On sait qu'il était amateur de serrurerie, mais de mécanique, sachant que la serrurerie, évidemment, ce n'est pas la serrurerie telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, c'était la confection également de serrures très précises, de serrures de coffre-fort. Donc il avait une connaissance très technique, que ce soit aussi bien Louis XV que Louis XVI, des sciences.
Où est-ce que vous nous amenez maintenant ?
On peut aussi, pour aller dans cette pièce, il y a deux exemples d'hygiène à Versailles. Et c'est important de parler d'hygiène à Versailles.
Oui, puisque la légende veut que Versailles était très sale. Et...
Il faut prendre l'hygiène avec les yeux de l'époque. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une hygiène, il y a une propreté, mais qui est différente de celle d'aujourd'hui. Néanmoins, tout ce qui était lieu d'aisance existait déjà dès le règne de Louis XIII, où on avait des latrines publiques, à l'époque de Louis XIV encore plus. Et sous Louis XV, naissent véritablement des espaces réservés pour les salles de bain. Et on a ici un lieu d'aisance qui date de l'époque de Louis XV et Louis XVI.
Donc il fait 10 mètres carrés,
qui fait 4 mètres carrés. On était avec un système de chaises à la française, c'est-à-dire un système de toilettes mobile. Il faut imaginer donc un meuble dans lequel on mettait une faïence, du moins un seau en faïence.
C'est en forme de coffre, c'est ça ?
Voilà, c'est un coffre qui se ferme avec une moquette, un siège de moquette et avec un seau de faïence. Donc, qui était une toilette à la française, c'est-à-dire qu'il fallait vider.
Alors, vous dites toilette à la française par opposition à quoi ?
Par rapport aux toilettes à l'anglaise, c'est-à-dire que c'est un système qui a été inventé en 1727 en Angleterre, alors il s'est arrivé un petit peu plus tard à Versailles, de water closet. C'est vraiment le terme que l'on retrouve dans les sources, et ce sont des toilettes encastrées avec un système de chasse d'eau et de tout à l'égout immédiat. Et on sait même déjà à l'époque de Louis XIV, même s'il n'y avait pas ce système, qu'il existait 35 fosses d'aisance réparties sous le château, avec un système d'aqueduc souterrain qui évacuait les eaux usées à l'extérieur du château, dans des étangs, tant et si bien que ça sentait mauvais et qu'on appelait ça des étangs puants et qu'on a depuis couvert sous le règne de Louis XV.
Sortons de ces mauvaises odeurs, Mathieu d'Avignat, traversons la pièce et dites-moi où vous m'amenez maintenant.
On va passer une première pièce qu'on appelle le cabinet de la vaisselle d'or et on va voir vraiment la pièce la plus retirée de cet appartement, vraiment ce qu'on appelait à l'époque le très très arrière-cabinet, qui est une ancienne salle de bain de Louis XV, où on aperçoit sur les boiseries des décors de bain qui rappellent l'ancienne fonction de cette pièce et qui a été transformée sous le règne de Louis XVI en pièce de la cassette.
Alors cette pièce ravissante, blanche et dorée, dites-moi, décrivez-la-moi.
On est vraiment dans du décor très fin et du décor de bain. On voit des naïades, on voit des baigneurs, on voit évidemment tout ce qui rappelle le plaisir du bain et qui a été conservé par Louis XVI mais finalement transformé en cabinet de la cassette, c'est-à-dire là où le roi serrait une fameuse cassette, d'ailleurs un petit coffre dans lequel il y avait les papiers les plus importants qui le concernaient. Donc c'est vraiment le très très arrière cabinet
du roi.
Seul le roi. C'est le roi, évidemment, éventuellement son premier valet de chambre qui le suit partout, mais on est vraiment dans les pièces, la pièce.
Là on est dans le secret d'État.
Là on est dans le secret d'État.
Alors, nous sommes maintenant, Mathieu Davignat, dans une beaucoup plus grande pièce, qui est, je présume, une bibliothèque. Elle est remplie de vitrines de livres.
Oui, nous sommes dans la bibliothèque de Louis XVI, qui est la dernière œuvre de Gabriel, ici à Versailles. Il faut savoir que Gabriel a régné comme premier architecte à Versailles tout au long du règne de Louis XV. Et finalement, il était assez honni à la fin du règne de Louis
Pourquoi
XV.
Parce qu'il était démodé.
Parce qu'il était assez ancien. Il avait la haute main sur toutes les constructions. Et finalement, la nouvelle cour n'aimait plus l'architecture de Gabriel. Mais il était soutenu par Louis XV, évidemment. Et lorsque le roi meurt en 1774, on pense qu'il va être chassé. Finalement, Louis XVI le maintient dans ses fonctions. Il mourra en 1782 et il ne fera plus véritablement de grande œuvre architecturale à Versailles, si ce n'est l'année suivant l'accession au trône de Louis XVI, cette superbe bibliothèque qui était la pièce préférée de Louis XVI à Versailles. Donc c'est une bibliothèque qui est dans un style déjà qui annonce le style directoire. Et on voit tous ces livres qui ne sont malheureusement pas les livres de la collection de Louis XVI, qui sont des rachats, puisque tous ces livres ont été dispersés au moment de la Révolution. Mais c'est une pièce très agréable et on a notamment cette table magnifique en loupe d'orme, faite d'un seul tenant, dont le plateau est d'un seul tenant.
Et couverte de sculptures
de biscuits de la manufacture de Sèvres qui représentaient les grands hommes de lettres à la fois des règnes de Louis XIV et de Louis XV.
Et dites-moi qui ça m'intéresse.
Alors, il doit y avoir Molière, La Bruyère, Corneille et ce sont surtout les grands hommes du XVIIe siècle.
Est-ce que l'inventaire de la bibliothèque du roi nous permet de dire quelle était la bibliothèque de Louis XVI? Est-ce que c'était plutôt une bibliothèque scientifique, une bibliothèque littéraire?
On a une bibliothèque assez classique, hein, c'est-à-dire que les bibliothèques de rois sont faites, on sait très bien qu'il y a des livres de droit, des livres de religion, des livres de sciences. Alors ça, en revanche, c'est un vrai goût de la part de Louis XV et de Louis XVI, les sciences. En revanche, après, ce sont du droit, de la littérature, des mémoires, les histoires de France.
Et là, on peut dire qu'avec cette grande table ronde, ces maps mondes, ces livres et les fauteuils et les chaises qui sont là, nous sommes dans l'état exact de Louis XVI.
On est dans un état pas forcément exact. On sait que les pièces étaient extrêmement meublées. Et donc, la politique aujourd'hui à Versailles est de reconstituer le plus possible le mobilier provenant du garde-meuble de Versailles. Néanmoins, parfois, on le fait avec des équivalents, c'est-à-dire des meubles provenant d'autres résidences royales, mais de même facture. Et on a, en revanche, dans cette pièce, une commode de Risner qui est assez emblématique de Versailles, oui, qui a été vendue il y a une quinzaine d'années. Et finalement, comme tout ce qui provient de Versailles, qui a l'estampille Versailles, il y en a très peu en vente actuellement, puisque tous ces meubles sont maintenant dans les musées internationaux, atteignent des sommes faramineuses, puisque c'est une commode qui ne vaut ni plus ni moins que 12 millions d'euros. Et il faut savoir qu'il faut se mobiliser chaque fois qu'un meuble est susceptible de passer en banque.
Qui vous aide particulièrement pour les achats?
Alors, il y a de nombreux mécènes. Là, en l'occurrence, ça a été offert par Madame Pinault lorsque ça avait été acheté par Lord chez Christie's, lors d'une vente Christie's, et elle a fait don au château de Versailles.
Ce qu'il y a de particulièrement émouvant, vous nous le disiez, Mathieu Davignat, c'est qu'au fond, là, c'est la dernière œuvre de ce grand architecte qui était Gabriel.
Oui.
Et c'est de quelle année?
1775.
Où nous amenez-vous maintenant?
On passe ces portes avec des faux livres, puisque le principe était véritablement de donner l'impression d'être totalement enfermé par les livres. Et donc, il y a ce système de trompe-l'œil avec les livres.
Alors, nous entrons dans une pièce à soierie bleue, c'est ça?
Oui, et on est dans une pièce qu'on appelle... Une pièce d'angle, donc toujours avec une exposition magnifique qui donne sur la cour de marbre d'un côté, sur l'avenue de Paris de l'autre, donc une très belle exposition, d'un côté au sud et de l'autre à l'est. Et finalement, on est dans ce qu'on appelait la salle à manger aux salles neuves, qui a été faite sous le règne de Louis XV et qui a été utilisée non seulement sous Louis XV et Louis XVI. L'idée était de reconstituer ces semblants de souper en public. Il faut savoir que Louis XIV avait instauré ces soupers au grand couvert, qui étaient très importants, où seule la famille royale pouvait assister à table. Et Louis XV, puis Louis XVI, ne respecteront plus ce cérémonial à la lettre. Et Louis XVI, en créant cette salle à manger, en tout cas en réutilisant cette salle à manger, a voulu donner le change et faire semblant de faire des soupers au grand couvert. Néanmoins, lorsqu'on sait qu'on est dans les parties les plus privées du château, seules les personnes admises ici étaient des amis de la famille royale. Et donc ça ne réglait pas. Les gens qui étaient là étaient uniquement par leur lien d'amitié avec le roi et non pas pour des questions de rang ou de naissance.
Est-ce que je me trompe ou on peut dire que même si les boiseries dorées sont luxueuses, le mobilier et la table sont plus simples ?
En fait, c'est un mobilier, lorsqu'on voit la table, qui est vraiment fin 18e, qui est d'une modernité, on se croirait presque dans les années 1930, du mobilier qui a été repris dans les années 30, d'art déco. Et on n'a pas tout le meuble non plus, malheureusement. Et c'est ce qu'il faut savoir à Versailles, c'est qu'on a toujours la volonté de réacquérir du mobilier, mais malheureusement, on ne dispose pas de tout le mobilier.
Est-ce que je me trompe, mais on sortait de salles où nous avions des soieries et des rideaux Louis XV très ornés avec beaucoup de couleurs. Et là, nous sommes dans une pièce Louis XVI avec des rideaux très simples de couleur bleue unifiée. C'est le changement.
C'est faux.
C'est faux.
C'est du faux truc de
cheveux. Ah, mais ça, il faut nous le dire, alors.
C'est pas...
C'est faux.
C'est faux, en fait.
C'est une reconstitution de conservateur qui a voulu faire du bleu, tout simplement.
Non, on sait que les tentures étaient certainement bleues, mais ce ne sont pas les rideaux de l'époque. Les rideaux se...
Ah, ça, je me doute. Mais c'est une reconstitution des rideaux de l'époque.
Là, certains sont de véritables reconstitutions, d'autres sont de simples rideaux tendus,
des vocations,
ou pour protéger la pièce du soleil et pour éviter que les meubles s'abîment.
Très bien. Où nous menez-vous maintenant, Mathilde ?
Nous venons de quitter la salle à manger des salles neuves et on se retrouve dans ce qui était le cabinet du billard de Louis XVI, qui est une pièce assez vide maintenant, mais néanmoins on aperçoit aussi, elle donne sur un cabinet des jeux, le cabinet des jeux de Louis XVI, qui vient d'être restauré, remeublé, où là on a pratiquement, non pas la table d'origine, mais les fauteuils et les chaises d'origine, les quelques tables de jeu. Donc c'est richement décoré à l'ancien emplacement du cabinet de curiosité de Louis XIV, et c'est là où la famille royale jouait dans l'intimité tous les soirs à l'époque de Louis XVI.
Donc ça, c'est un lieu excessivement privé où le roi et la reine aussi recevaient leurs amis pour jouer, les deux mélangés.
Oui, c'est-à-dire que le cercle de la reine, le cercle du roi, on est vraiment dans un endroit familial avec les amis dans cet espace de jeu.
Donc on peut imaginer que c'était beaucoup moins solennel. Est-ce qu'on s'adressait, par exemple, est-ce qu'on sait que dans cette pièce-là, où on voit une grande table ronde avec de très belles chaises rouges et or, est-ce qu'on peut imaginer qu'on s'adressait de manière plus informelle au roi ?
Les parties de divertissement à Versailles étaient toujours les moments de liberté, que ce soit sous le règne de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Et donc, on a évidemment ces moments d'intimité qui permettaient d'oublier quelque temps l'étiquette et on pouvait évidemment s'adresser beaucoup plus facilement au roi et à la reine.
D'ailleurs, j'ai trouvé dans les mémoires de Mme Campan une scène de retour de chasse où était Louis XV et on ne devait pas être loin de ces endroits-là car elle dit que c'était dans les appartements privés et des familiers sont avec le roi, ils soupent avec lui, la conversation s'emporte un peu, chacun parle de ses maîtresses et des mérites qu'ils ont de coucher avec ces femmes alors qu'ils ont des femmes moins belles et cela s'approche un peu trop de la reine. Et Louis XV, dit Madame Campan, tape alors trois coups sur la table avec son couteau et dit « Messieurs, voilà le roi ». Et tout le monde se tait. Alors, nous
et finalement,
cette
au
pièce
terme
de
cette visite, on s'aperçoit qu'on a une superbe porte avec une sculpture magnifique, une porte qui date de l'époque de Louis XIV, sachant qu'on était sur ce plancher à l'emplacement de l'ancien grand escalier du roi, c'est-à-dire l'escalier des ambassadeurs, que Louis XV a détruit pour faire place à ses nombreuses pièces pour loger dans un premier temps ses filles, parce qu'elles étaient nombreuses.
Car il a divisé les pièces du château, n'est-ce
pas ? Il a divisé les pièces du château, il a restructuré, il a cloisonné, et on a ces superbes portes témoignages de l'arrivée, le débouché de l'escalier des ambassadeurs, et on ne va pas les ouvrir, puisque lorsque nous les ouvrons, nous débouchons directement sur le grand appartement du roi.
C'était Secret Professionnel, le 182e. La semaine prochaine, toujours à Versailles, je parlerai du secret professionnel des appartements privés de Marie-Antoinette. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.